Bonjour Annette. Bonjour Annette, bonjour à tous. Soyez bénis. Voilà, aujourd'hui, depuis qu'il y a les réfugiés chez nous, une vie comme celle d'avant a repris. Énormément de travail dans les soins de la maison, de la propriété, dans les poubelles, dans la supervision de tous les ennuis électriques, robinetterie, etc. Tout cela est un investissement énorme. Et pour simplement accueillir avec amour les personnes, et bien sûr, tout cela c'est des frais. C'est aussi des soucis, bien sûr, des soucis d'argent, mais bon, que je confie au Seigneur, dont le Seigneur connaît le premier et le dernier mot. Voilà, aujourd'hui, par exemple, un enfant était à la balançoire et un des anneaux a cédé et l'enfant s'est fait mal. Eh bien, ce soir, il faut réparer la balançoire parce que demain, il y a 19 élèves à l'école. Faut réparer ce soir après le message. Après un court repas, il faut réparer cette balançoire. Évidemment, ça fait 2 mois passés que on me dit qu'il faut que j'y regarde, mais toujours une chose chasse l'autre et ça n'arrête jamais. Après la balançoire, ce sera autre chose. Je viens d'amener un tas de sable avec la remorque que j'ai déchargé avec Noémie parce que les enfants ont besoin de jouer dans un tas de sable. Voilà. C'est la vie d'ici, c'est la vie de tous les jours à Gomery avec toutes ces personnes. Comme l'herbe pousse et que les enfants jouent, ils risquent de tasser l'herbe et puis après qu'on sache plus la faucher, donc il faut la faucher au fur et à mesure. Encore un boulot. Et donc, chers amis, priez pour que on tienne le coup. Heureusement, Élie, par exemple, 11 ans, a attendu aujourd'hui après-midi. Noémie, puis après, c'est des jeunes filles, des adolescentes ukrainiennes. Il faut tondre, tondre. En même temps, il faut étendre les jardins, agrandir les jardins pour avoir à manger. Donc, il a fallu labourer à deux, trois reprises dans le verger, avec de grosses racines d'arbres, etc. Et passer après la fraise. Et puis, Marie-Hélène et les dames d'Ukraine travaillent dans ces parcelles qui ont été faites. C'est toute une vie communautaire qui s'est remise en route comme elle existait avant. Il y a eu une interruption de 8-9 ans à cause d'un bourgmestre, d'un maire de commune qui nous avait interrompu, arrêté dans ce cours, mais voilà, ça est repris. Quelque part, c'est notre bonheur, quelque part, c'est notre vie, quelque part, c'est la volonté de Dieu. Et ces personnes un jour repartiront en Ukraine. Et elles avaient un a priori sur les baptistes. Ce sont des gens incroyants et d'autres sont orthodoxes, à quelques traditions orthodoxes, pas plus que beaucoup de gens ici quand ils disent qu'ils sont catholiques. Et donc, ils considéraient les baptistes comme des drôles de martiens, les évangéliques aussi. Et donc, quand ils sont tombés chez nous, oula, on a bien vu ils avaient un gros point d'interrogation. Et qu'est-ce que c'est qu'un baptiste? Un baptiste, c'est quelqu'un qui ouvre sa Bible, qui la lit tous les jours de préférence, et qui croit que Jésus est mort sur la croix pour lui, et que son salut ne vient pas de la religion, mais il vient de Jésus-Christ lui-même, de la croix, et qui lui doit lui donner toute sa foi et son obéissance. Et quand il a vraiment des confirmations dans son âme, dans son cœur, qu'il vit aussi convenablement, fraternellement avec les membres d'une assemblée, il demande le baptême. Et donc, voilà, un baptiste. C'est donc un chrétien, simplement comme il y en avait les 2 premiers siècles. L'étiquette Baptiste a bien sûr revêt toutes sortes de sens, parce que les États-Unis ont toutes sortes de confessions de missions baptistes très différentes, et que beaucoup de gens ont soutenu les Bush, ont soutenu Trump, etc. Ça donne en Europe énormément de préjugés sur les baptistes. Nous ne sommes pas dans la politique des Bush ni de Trump, nous ne sommes dans aucune politique, nous voulons suivre Jésus-Christ. Et donc ces Ukrainiens, Ukrainiennes, quand ils repartiront, sauront un peu plus que l'Évangile, tout simplement, est notre vie. Et peut-être qu'avant, certains, certaines seront convertis, nous n'en savons rien, c'est Dieu qui le sait. Il faut être courageux pour essayer de témoigner sa foi aujourd'hui. Évidemment, à l'école, c'est la même chose. Beaucoup de personnes sont incroyants et s'intéressent à beaucoup de choses en dehors de la foi chrétienne et amènent leurs enfants parce qu'il y a une qualité de relation, une qualité d'amour, d'éducation, de compétence de nos filles. Et donc, le message passe doucement à chacun son rendez-vous avec le Seigneur. Vous savez, chers amis, je voudrais vous parler de quelque chose qui me frappe. Je suis tombé sur cette revue. C'est Place au Nouveau Moi. Place au Nouveau Moi. Il y a plein de revues comme ça, de ce genre-là, de mode, qui arrivent dans les boîtes aux lettres, qui sont distribuées. Il y a des films aussi, Place au Nouveau Moi. Et lorsqu'on regarde, c'est livraison offerte pour toute commande supérieure à 60 euros. Alors, mon nouveau moi, découvrez une toute nouvelle facette de vous-même. Et alors, cela touche les hommes, cela surtout touche les femmes, le nouveau moi. Et bon, bien sûr, dans cette revue, les mannequins sont mignons, sont mignonnes, et bien sûr, le but est de vendre. Mais on joue sur quoi? Sur la soif, sur l'insatisfaction. L'être est insatisfait de ce qu'il est, lui-même, surtout chez la femme, je pense. La femme a toujours besoin d'autre chose que ce qu'elle est. Elle a toujours besoin de rêver d'autre chose que ce qu'elle vit. Et c'est pour ça que Satan s'est d'abord adressé à la femme dans le couple d'Adam et Ève. La femme est très sensible et recherche quelque chose de plus. Il y a toujours une soif, une quête, un manque, et donc ou une angoisse, une espèce d'inquiétude vis-à-vis de soi-même, et il faut être rassuré. Donc la mode permet de se rassurer. La mode permet de se donner une nouvelle apparence. Le tatouage permet de se donner un nouvel être, pour certains. Les ongles, vous savez qu'aujourd'hui c'est une mode extrêmement répandue, il y a un grand commerce des ongles chez les femmes. Et pourquoi? Parce que les ongles, c'est ce qu'on voit chez une femme. On voit autant sa figure, mais on voit ses ongles, s'ils sont coloriés, etc. Donc, place au nouveau moi, c'est certainement ce que Jésus a voulu enseigner. Jésus a voulu enseigner un nouveau moi, mais pas le moi qui repose sur soi-même, le moi qui repose sur le commerce, le moi qui repose sur des propositions qui touchent nos faiblesses, qui nous manipulent, qui nous amènent à être esclaves de la mode, des influences. Jésus a dit ceci dans Jean chapitre, je vais vous lire, si vous voulez bien. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des responsables juifs, qui vint lui dit, qui vint auprès de Jésus la nuit et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si ce n'est Dieu lui-même, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux? peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et donc, si nous allons dans Jean chapitre 6, c'est ce que je disais chez une dame au matin, j'étais en visite chez une dame, et je lui répétais des paroles de Jésus, que la chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Pourquoi ? L'être humain, par lui-même, se repose sur lui-même. L'être humain se repose sur d'autres images de soi-même, sur des autres modèles, mais c'est toujours des êtres humains. Que ce soit des anti-modèles ou des modèles sympathiques, mais l'homme se réfugie toujours vers l'homme. Et donc, Dieu n'a pas voulu que l'homme reste enfermé dans l'image de l'homme. Parce que l'homme connaît une trop grande faiblesse et une trop grande pauvreté en amour, en spiritualité, en relation avec Dieu, en bonté, en charité, en vérité. Donc Jésus veut autre chose. Il dit en Jean chapitre 6 verset 63, c'est l'Esprit Saint qui vivifie, qui donne la vie, la chair, donc l'humain ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, chers amis, le catalogue qui propose à toutes ces dames, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont reçu et beaucoup qui ont sans doute qui ont acheté, place au nouveau moi, ce catalogue ne donnera pas un autre moi. Il donnera une apparence d'un autre moi. Et puis 6 mois après, 3 mois après, 1 an après, 2 ans après, il y aura toujours un autre catalogue de la même firme avec d'autres phrases aussi choquantes, aussi bouleversantes, parce que la femme est de nature sensible, et elle se fera appâter. Jésus-Christ, lui, il propose un changement une fois pour toutes, et pas un changement répété, un changement commercial, sous marketing, sous influence. C'est l'Esprit Saint qui vivifie, la chair ne sert à rien. Recevoir l'Esprit Saint est clair, c'est clair, nous pouvons le demander à Dieu. Nous pouvons demander l'Esprit de Dieu, mais pour cela, il faut renoncer à notre esprit. Il faut renoncer à notre vie, à notre façon de voir les choses, comme nous avons toujours vécu. Il y a un renoncement. Il faut tourner les yeux vers Dieu et lui demander de naître à nouveau. Pour cela, il faut confesser que l'être que je suis rate tout. Le mot péché, pécha en hébreu, c'est un archer qui tire une flèche et qui rate sa cible. L'être que je suis, sans l'œuvre de Dieu en moi, rate tout. Tout. Il rate tout. Et nous n'avons pas de possibilité de réussir notre vie sans le don de l'Esprit Saint. Dans Luc chapitre 10, verset 21, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc Jésus veut nous révéler la nature divine, et aussi nous donner la possibilité d'entrer en communion avec cette nature divine et de renoncer à la nature dévoyée, égarée, dans laquelle nous sommes nés. C'est clair que c'est un challenge qui ne plaît pas à tout le monde. Pourquoi est-ce que je changerais? Je suis bien comme je suis. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas besoin de changer. Oh, oui, je veux bien améliorer. Oui, je tiens compte de ce qu'on me dit, j'améliore. Mais on reste sur ses positions. Alors, Jésus dit dans Luc chapitre 11, ceci. Le chapitre 11, verset 9 est suivant. Je vous dis, demandez, il en vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il en vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et il en ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le papa qui donnera un caillou à son fils, s'il lui demande du pain à manger? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, qui n'est pas méchant, qui est bon, qui nous aime, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Saint-Esprit est donné à la personne qui accepte Jésus-Christ dans sa vie. C'est Jésus-Christ qui est la source de la vie nouvelle. C'est Jésus-Christ qui donne cette abondance de vie nouvelle et rien ne peut venir sans la foi en Jésus-Christ. Si nous voulons nous passer de la personne de Jésus, nous nous passerons du nouveau moi, de la nouvelle naissance, de ce qu'on appelle la régénération. Et nous resterons enfermés dans notre moi, le moi adamique, le moi qui tourne en rond, qui essaye vainement d'être heureux, de réussir sa vie éternelle et qui n'y arrive pas. Donc, Jésus a proposé ceci dans Jean chapitre 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié, ressuscité et glorifié. C'est après la mort et grâce à la mort et à la résurrection de Jésus que l'Esprit Saint est donné à ceux qui ont la foi en lui. Alors, je viens de vous répéter quelque chose que je vous ai toujours dit. Maintenant, je voudrais vous parler comme quelqu'un, Satan, qui est derrière la civilisation moderne, derrière l'humain, ou devant, peu importe, comment il parle et comment il propose de penser aux humains. Comment Satan parle, en fin de compte, de manière diffuse, de manière subtile, il en arrive à faire passer ce message. Chers soumis, chers esclaves, voici ma nouvelle culture humaine. Regardez et contemplez les gloires de ce monde que je peux vous donner. Or, argent, force, puissance, beauté. Regardez et contemplez les gloires de ce monde. Hors de la Bible, hors de Jésus, mais seulement en moi. Mettez-vous à mes genoux et je vous les donnerai. Prenez l'avion, suivez Ushuaïa, son fondateur, visitez le monde, contemplez le monde et polluez-le, bien plus encore qu'il ne l'est. Oui, allez visiter l'Arctique et l'Antarctique dans de beaux gros bateaux. Visitez les océans dans de beaux gros bateaux. Faites la fête. Oui, contemplez la nature. Contemplez les corps. Contemplez les humains. Mais pas Dieu. Chers humains, c'est toujours Satan qui le dit, la nature est à vous. Croyez-le. Bientôt ne sera plus à vous. Elle sera tellement détruite par vous. Mais pour le moment, croyez-le, elle est à vous. Profitez-en. Et pendant que vous le croyez, vous êtes à moi. Votez un président, votez un ministre, choisissez un représentant politique, un représentant syndical, choisissez un représentant social pour des problèmes familiaux. Choisissez un psychiatre. Oui, vous suivrez tous leurs pensées. Oui, vous suivrez aussi ma pensée. Jamais vous n'irez vers Jésus ni vers Dieu. Car je ne veux pas que vous alliez vers Jésus-Christ, que vous alliez vers votre Dieu, le Père du ciel. Voilà comment Satan pense. Suivez tous une pensée unique, une seule pensée qui dirige le monde, la mienne. Suivez. Vous avez suivi le marxisme, vous avez suivi le socialisme, vous avez suivi l'humanisme, vous suivez l'écologie, vous suivez l'énergie positive. Vous suivez tous les descendants d'Adam et Ève. Mais ne suivez pas Jésus, ni Dieu, ni sa parole. J'ai fait basculer les familles. Les parents ne s'occupent plus des enfants. Les femmes ne sont plus avec leur mari. Les femmes ne vont plus à l'église, ni les enfants, ni les maris. Je vous ai proposé le boulot, le métro, le dodo, les vacances, mais pas de réunion d'église, pas de réunion autour de la Bible, pas de Jésus-Christ. Je ne vous propose pas une famille chrétienne. Je ne vous propose pas une église, ni l'héritage du ciel. Non. Vous avez votre vérité. Vous faites votre vérité. C'est la meilleure. Choisissez vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. Ce n'est pas à Dieu de vous dire ce qui est bien, ce qui est mal. Choisissez vos souverains. Choisissez vos maris. Choisissez vos épouses. Choisissez vos belles, vos charmantes. Suivez vos illusions, vos fantasmes. Suivez vos forces dites positives. Oui, la force est en toi. Voilà ton credo. La force est en toi. Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Voilà tout ce que je te propose de croire, moi Satan. Toutes vos forces tournées sur vous-même. Toutes vos forces tournées sur vous-même me serviront à vous manipuler, moi, Satan. J'annihilerai votre bonheur. Je vous soumettrai, je vous anéantirai. J'établirai bientôt l'Antichrist, le grand chef des nations. Tu ne dois pas pleurer sur l'Ukraine, c'était prévu depuis 15 ans par l'OTAN. Tu ne dois pas pleurer sur les Ukrainiens, sois gentil avec eux, mais ça fait tourner les industries d'armement. Quand tu payes ton essence et ton mazout plus cher, tu sers M. Poutine pour qu'il puisse faire la guerre. Parce que tu tues sans le savoir, par ton commerce, par tes complicités, parce que tu tues sans le savoir, et parce que tu ne veux pas que ça change, parce que tu as peur que ça change, eh bien moi je suis ton maître, dit Satan. Tu as choisi non pas seulement la guerre de M. Poutine, tu n'as pas choisi cette guerre-là. Il y a bien plus de morts autre part dans une autre guerre, mes chers amis. Je vous l'ai proposé et vous l'avez accepté. Je m'en félicite. C'est au prix de votre grande liberté. Oui, c'est la guerre des avortements. Vous avez légalisé, remboursé les avortements. Vous avez fait cela. Vous le faites encore. Et mieux, pour fabriquer les vaccins anti-Covid, vous avez pris des cellules dans les bébés avortés. Tu ne dois pas pleurer. Tu tues beaucoup plus que tu ne penses. Tu tues des innocents en produisant et en vendant des armes, en utilisant des vaccins. Tu es donc artiste du mensonge, et du mal avec moi, dit Satan. Tu es mon complice. Ta liberté. Oui. Oui, cher humain, ta liberté. Moi, Satan, je te le dis, c'est celle que je t'ai donnée et tu n'en as pas d'autre. Tu es captif de mes pensées. Et tu vas au point, comme Caïn a dit à son papa du ciel, que je déteste, tu vas jusqu'au point de dire à Dieu, à ton papa du ciel, suis-je le gardien de mon frère? Si Caïn a osé le dire, vous osez tous le dire aussi. Mes chers amis, j'ai parlé comme ça, peut-être un peu durement, mais je voudrais vous dire que Satan est en train de conduire les hommes. Satan est en train de conduire les hommes. Il est temps de se tourner vers Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour que nous restions prisonniers de Satan. Colossiens. Colossiens. Chapitre 1, verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a fait connaître. L'Évangile est au milieu de vous, et il est dans le monde entier. L'Évangile porte des fruits. L'Évangile s'accroît. C'est comme aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre, serviteur de Jésus-Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit-Saint vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Alors, vous voyez ici, j'en suis à l'antipode de ce que je viens de dire avant. J'ai paraphrasé, je me suis moqué un peu de Satan, en disant voilà comment il pense. Je pourrais le faire des heures, hein, parce que je décortique pas mal tout ce qui se passe. Mais c'est pas la peine. Ça ne me plaît pas d'ailleurs. Et sans doute à vous non plus. Mais regardez ici, voilà ce que Paul souhaite pour ces chrétiens qui ont accepté Jésus. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et en intelligence spirituelle. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur Jésus et lui être entièrement agréable, pour porter des fruits en toutes sortes de bonnes actions, de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Je vous invite à lire et à méditer ces quelques versets ce soir, chers amis. Colossiens, chapitre 1, du verset 3 jusqu'au verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Donc, Jésus a un autre chemin pour nous que Satan qui conduit le monde. Jésus de Nazareth, dans sa sainteté, dans sa divinité, nous propose la vérité, et non pas le mensonge de Satan et la méchanceté de Satan. Alors, continuons à lire. Colossiens 1, 12. Rendez grâce au Père, et cela est fondamental dans la vie d'un chrétien. Le chrétien qui ne marche pas sur la pointe, sur les pieds de Dieu, mais qui se soumet et qui lui rend grâce, qui est sans cesse en action de grâce, c'est le chrétien qui aura toujours plein d'amour pour les autres, qui sera patient, qui ne sera pas orgueilleux. Il va éviter la présomption, le moi-je, l'arrivisme dans les églises. Il va être comme Jésus dans la communauté chrétienne. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, donc de Satan, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. S'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, il nous délivre de la puissance de Satan et il nous met dans le royaume du Fils bien-aimé. Or, le royaume, Romains 14, 17, n'a ni le manger ni le boire, mais paix, justice, joie et amour selon Saint-Esprit. Avez-vous vu que l'Esprit-Saint est à la base, à la clé, au cœur de la vie chrétienne? Paix, justice, joie et amour selon le Saint-Esprit. Romains 14, 17. Donc ici, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Il est le frère aîné de toute la création. En lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Chers amis, tout est plénitude en Jésus. Dites-le bien à tous ceux que vous rencontrez. Qu'est-ce que c'est que la plénitude? En face, il y a le tourment, il y a l'angoisse, la tribulation, la peur, la jalousie, les querelles, la division, le moi-je, les rancœurs, les guerres, les viols, les impuretés, les convoitises. Mais de l'autre côté, du bon côté, du côté de Jésus, il y a quoi? La plénitude. L'amour dans sa perfection. La joie dans sa plénitude, dans sa perfection. Le pardon dans sa plénitude, dans sa perfection. Chers amis, la plénitude, remplissez-le par perfection, vous aurez compris. Mais ça va encore plus loin. Ça remplit tout en tous. Donc, si Satan aujourd'hui conduit beaucoup de monde, il les conduit non pas vers le remplissement de la grâce, remplissement de la plénitude, il les détruit vers la dévastation, il les détruit vers l'errance, vers le malheur, vers la souffrance. Aujourd'hui, il faut beaucoup prier, chers amis. Nous avons bien du mal d'être chrétiens sur cette terre. C'est très difficile d'être chrétien aujourd'hui. Car ce n'est pas de la bigoterie que d'être chrétien. Ce n'est pas le fait d'aller s'asseoir dans une assemblée, d'être baptisé. Si c'est important d'avoir une assemblée, si elle aime la parole de Dieu, si elle vit l'Évangile. Mais ce qui est le plus important, d'abord, c'est d'aimer Jésus-Christ. Et puis alors, de se laisser conduire par Jésus-Christ dans une assemblée où tout le monde aime Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on s'approche, non pas complètement de la plénitude, mais tout de même, pensez bien à ceci, au verset 18, Colossiens 1, 18, il est la tête du corps de l'Église. Donc, si vous allez dans une assemblée locale où on aime Jésus, où on aime sa parole, Il y a une tête quelque part que vous ne voyez pas. Il y a quelqu'un qui dirige. Il y a quelqu'un qui est le maître absolu de son assemblée. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui conduit les pensées, qui conduit les âmes. C'est en cela que Jésus peut être la plénitude de l'Église aujourd'hui. Je continue à lire Colossiens 1, 21. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, son corps humain, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'étais fait ministre. Qu'est-ce que veut Jésus pour nous? Nous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Donc une progression morale et spirituelle. Désirez-vous vraiment ardemment cette progression morale, spirituelle? Je ne serai pas long aujourd'hui, moins long que les autres fois. Rappelez-vous cette revue que je vous ai montrée, que j'ai reçue à la poste, et c'est ma femme qui m'a dit, tiens, tu devrais parler de ça dans ta prédication. Qu'est-ce qu'il a dit? Place au nouveau moi. Ça, c'est le piège sublime. Le piège sublime de ce monde. Et qui touche énormément la sensibilité de la femme et des adolescentes, et bien sûr aussi des hommes. Mais essentiellement, ça passe d'abord par la femme. La femme est un être plus sensible et souvent qui est plus inquiète, en recherche, que l'homme. Si nous avons besoin de la paix de Dieu et d'un nouveau moi, nous ne le trouverons pas dans ce monde. Recherchez Jésus, lisez l'Évangile. Mettez-vous tout seul ou toute seule dans la chambre et dites, Seigneur Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. Je t'en supplie. Je te cherche de toutes mes forces, de toute mon âme, de toute ma pensée. Seigneur, fais-moi des signes. Viens à mon secours. Regarde comme je suis pauvre. Regarde comme je ne suis pas bien dans ma peau. Regarde comme je sens. Je ne suis pas complet dans mon bonheur, ou parfois même, tout s'envole. Je pourrais être heureux et tout s'envole dans mon cœur, tout est désordonné. Alors Seigneur, donne-moi ta paix. Montre-moi ton amour. Donne-moi ta paix, Seigneur. J'ai besoin de ton amour, Seigneur Jésus. Dans une famille incroyante aux États-Unis, il y a quelques années, une petite fille de 8-9 ans, c'était une famille athée, complètement athée. Et les parents faisaient homeschooling, c'est-à-dire école à la maison. Donc l'enfant était en vase clos, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il voyait personne à l'extérieur de la famille. C'était une famille complètement athée, sans Dieu. Et un jour, cette petite fille de 8 ans disparaît. Et les parents ne la retrouvent pas. Et ils appellent la police fait le tour de toute la maison, de la propriété, de la région, on ne la retrouve pas. Et vers le soir, tout d'un coup, 7-8 heures plus tard, après sa disparition, voilà qu'ils croisent la petite fille dans la maison, sereine, calme. Et cette petite fille, eh bien, n'avait pas l'air d'être souffrante, n'avait pas l'air d'avoir été enlevée, maltraitée. Et les parents ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'a cherché partout, on ne t'a jamais retrouvé. Elle a dit, je suis disparue pendant 8 heures et j'étais au ciel. Dieu m'a pris au ciel et il m'a montré Jésus. Ça se trouve sur Internet. Si ça vous intéresse, je peux vous donner la fois prochaine les références. Et cette petite fille a dit, mais Jésus est merveilleux. Et vous savez, papa, maman, même si vous ne croyez pas, moi maintenant je crois en lui. Parce qu'il m'a montré comment il était. Il est plein d'amour et de vérité, de sainteté. Il est merveilleux. Pouvez-vous me donner de la peinture, des gouaches, de l'aquarelle? Je vais vous le dessiner. Et cet enfant n'avait jamais suivi des cours de dessin. Jamais suivi des cours pour pouvoir peindre. Cet enfant a peint un visage. Le visage du Seigneur. Mes chers amis, c'est impressionnant. La perfection du visage, la perfection du dessin. Et cet enfant a grandi, est devenue une femme qui aujourd'hui a toujours la foi. J'ai un autre témoignage d'un homme de mon âge qui a fait un arrêt cardiaque et qui a été au ciel pendant plusieurs heures. Et qui, à force de soins médicaux, est revenu à lui, mais il a témoigné des grâces divines, il a témoigné de ce qu'il avait vu au ciel. Croyez-vous qu'ils sont seuls? Il y en a des centaines de milliers. Chers amis, la réalité de Jésus est tout près de vous. Jésus est là, parlez-lui. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez ou ce que vous ne voyez pas. Jésus dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Chers amis, vous voulez le bonheur? Croyez sans voir. Et vous comprendrez après. Et vous verrez après. Voilà, c'est aujourd'hui ce que je vous propose. C'est tout le contraire de Satan. Lui, il veut vous faire paraître. Il veut vous montrer ce qu'on voit, ce qui touche les sens. Il veut vous en mettre plein la tête. Il veut vous tromper par les yeux, par les oreilles. Mais Dieu, désirez-le, désirez Jésus. Et Jésus fera des signes. Mais pour aimer Jésus, il faut aimer changer. Il faut aimer recevoir un nouveau moi. Il faut aimer être transformé par Jésus. Faut pas s'y refuser. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Que Dieu vous garde.